Bonjour à tous. Aux salutations qui vous ont été adressées tout à l'heure, j'ajoute bien entendu les miennes, mais je voudrais également formuler la bienvenue à des amis francophones qui sont présents dans la salle, à la fois québécois et africains. Nous sommes fiers de les accueillir à ce congrès, nous sommes fiers de les avoir comme partenaires, et je vous demande de bien vouloir les applaudir. Et les remercier d'être présents parmi nous. Merci pour eux. Permettez-moi d'ajouter quelques mots dans la continuité du propos du président Bonnet sur ce sujet ô combien difficile. Nous savons tous, opérateurs de terrain, nous savons tous, entreprises, pouvoirs publics, que ce sujet est un sujet, je dirais, presque casse-gueule. Dans tous les pays fortement industrialisés, qu'ils soient européens ou d'Amérique du Nord, quels que soient les dispositifs, quels que soient les circuits de financement, quelles que soient les mesures juridiques envisagées, le taux d'emploi, le niveau de qualification des personnes en situation de handicap reste extrêmement faible. Le président a rappelé quelques indicateurs, je voudrais en ajouter d'autres. En plus du taux de chômage, je vous rappelle que la durée moyenne du chômage des personnes travailleurs handicapés est presque le triple que celle des travailleurs dits valides. L'enquête sur l'emploi et la formation professionnelle de la DARES de 2008 fait état que 55% des personnes entre 15 et 64 ans bénéficiant de la reconnaissance administrative du handicap n'avaient aucun diplôme. Et par ailleurs, la majorité des acteurs s'accordent pourtant pour reconnaître les ingrédients d'une insertion socio-professionnelle réussie. Un bon niveau de qualification, un parcours de formation professionnelle et continue individualisé, adapté aux capacités et aux intérêts de la personne et aux exigences du marché du travail. Accompagnement social de qualité, et bien entendu, vous connaissez la liste, elle est longue, elle est tout à fait pertinente. Il existe également une littérature extrêmement abondante, des rapports, et le président Bonnet a rappelé l'expérimentation qui aujourd'hui est en cours dans 10 départements suite au rapport Bunel, expérimentation qui devrait, autour des MDPH, s'efforcer d'améliorer le maillage dans les territoires. Je suis certain que là aussi, on sortiront des orientations et des préconisations particulièrement pertinentes. Aujourd'hui donc, on partage tous la connaissance sur le système idéal et il y a une vraie volonté, le président aussi l'a rappelé, il y a une vraie volonté de la part des acteurs, notamment des entreprises. On a rappelé le club qu'on a lancé hier, on a rappelé les stratégies nouvelles, voire innovantes des entreprises qui étaient hier soir, mais également au plan national. Il y a une vraie volonté d'embaucher au-delà des quotas, au-delà des injonctions juridiques. Et pourtant, on a l'impression que l'ensemble des efforts et des volontés ne suffisent plus à progresser. On a l'impression quand même d'un tout petit peu patauger. Alors certains aujourd'hui invoquent la réduction de la dette. C'est les mêmes qui hier invoquaient la crise, les crises des emplois. Les raisons sont connues, toujours les mêmes, parfois systémiques, j'en suis certain. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'avec les objectifs de croissance qui sont annoncés, l'OCDE a annoncé hier 0,3% de croissance, il est certain que le développement des emplois sera encore extrêmement précaire. Mais au-delà de ces constats, ce qui m'intéresse de vous faire partager, en tout cas, c'est que la loi de 2005, qui aurait dû être, à juste titre, ce socle fondateur d'une ambitieuse politique renouvelant le rôle et la place des personnes handicapées dans notre société, semble surtout aujourd'hui exacerber les tensions, les contradictions, les paradoxes qui résultent de sa confrontation avec la réalité. Et le sentiment que l'on évoque cette loi uniquement du côté de ses intangibles principes et non pas du côté de sa faisabilité donne toujours l'impression que ces ratés seraient liés à la mauvaise volonté des acteurs de terrain et à leur manque d'imagination et à leur incapacité à innover. Malheureusement, les principes ne s'opérationnalisent pas à force de déclarations. Le modèle de société voulu par la loi de 2005 est référé à des cadres conceptuels en lien avec des pratiques professionnelles, sous-tendues par des modèles organisationnels qui non seulement demandent beaucoup de temps dans leur mise en œuvre, mais qui doivent également et surtout être soutenus par un modèle économique en adéquation. Je voudrais juste rappeler qu'une société inclusive ne me semble pas être ce lieu théorique décrit par un discours humaniste structurant des relations interpersonnelles fondées sur le respect réciproque des personnes bien intentionnées. Le milieu de référence qui est le nôtre est aujourd'hui celui qu'on appelle le milieu ordinaire, mais c'est aussi celui d'une société dont la réalité est aujourd'hui reflétée par une vertigineuse accélération de la désaffiliation et de la paupérisation. Dit d'une manière beaucoup plus simple, dans cette société ordinaire, l'écart se creuse chaque jour davantage entre les riches et les pauvres, entre les informés et les moins informés, entre les capables et les moins capables, entre les in et les out. Chers amis, chers confrères, chers adhérents, le style de la FISAF n'a jamais été celui de la dénonciation, ni de la revendication tous azimuts. Nous sommes humblement, comme se plaisait à le rappeler notre ancienne présidente, des acteurs techniques, experts de notre secteur. Mais aujourd'hui, je suis, et j'espère que vous m'autoriserez à dire nous sommes, particulièrement inquiets par les paradoxes parfois insoutenables, que cette période génère. Là aussi, quelques chiffres. Une statistique de l'INSEE de 2009 démontre que plus de 8 millions de personnes vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Selon une analyse parue en septembre aux États-Unis, en septembre 2010, 42% des revenus à l'échelle mondiale sont accaparés par les 10% des individus les plus riches, alors que 1% des revenus vont aux 10% les plus pauvres. En France, toujours une statistique de l'INSEE, entre 2004 et 2007, 1% de la population la plus aisée a vu ses biens augmenter de 9%, tandis que 90% des plus pauvres a subi une baisse de 1%. Alors, à la lumière de ces indicateurs, je poserai juste une question. C'est quoi cette société inclusive ? Alors, je ne voudrais pas que vous me preniez sur mes propos, vous le savez. On a été à la FISAF toujours avant l'heure des farouches partisans de l'ouverture de nos établissements, de la promotion de la notion de service et du respect le plus absolu des personnes en situation de handicap et de leur choix. Mais il me semble que le sujet est trop sérieux aujourd'hui et la période trop grave pour que l'on se contente d'une posture philosophique. La loi de 2005 n'aura de sens que si le droit devient effectif, que s'il revendique une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens, que si les investissements permettent la tenue des objectifs et qui seront à la hauteur de cette ambition. On ne peut plus se contenter d'une simple lecture éthique sur la place des personnes handicapées dans notre société. On ne peut plus se contenter d'une société où le recours aux défenseurs de droits tient lieu de solidarité. Avant de passer à l'échange, à la réflexion, je voudrais aussi vous alerter, le président l'a fait, mais je tiens à le refaire, à le redire avec mes mots, des difficultés rencontrées par nos services d'accompagnement à l'emploi. Ce sont eux qui sont à l'origine des préoccupations de ce congrès et je transmets ici leurs préoccupations. Ces services, en peu plus de 15 ans, ont su accumuler un savoir-faire, une expertise, un rayonnement, un capital de reconnaissance de la part des entreprises et des personnes elles-mêmes sans égal. Et que voit-on aujourd'hui ? Eh bien, on voit ces services en grosses difficultés, des difficultés financières, des difficultés de positionnement dans les territoires, proches pour certains du dépôt de bilan, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment pour l'ensemble des bénéficiaires de leurs activités. Mais ce n'est pas tout, car à l'instar du secteur tout entier, ils vivent également une sorte de culpabilisation, comme s'ils ne savaient plus faire, comme s'ils ne savaient plus s'adapter aux exigences des donneurs d'ordre. C'est en ce sens que le secteur médico-social tout entier vit une crise identitaire et culturelle majeure, une crise de repères, une crise de modèle, une crise de confiance sans pareil, tiraillée entre les injonctions paradoxales et la confrontation avec la réalité. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics se sont bien rendus compte de cela, et la nouvelle mission annoncée récemment par Marianne Manchamp, secrétaire d'État auprès des ministres des Solidarités et de la Cohésion sociale, en témoigne. Cette mission aura pour objectif de réaliser un diagnostic partagé des attentes et des inquiétudes du secteur sur l'exercice des missions et les modalités de fonctionnement des établissements et services. Il n'empêche que les changements structurels auxquels nous avons été confrontés depuis une dizaine d'années, et bien au-delà de cela, les bouleversements de notre société font que nous avons peut-être un peu de mal à redonner du sens à nos activités. Il y a manifestement un choc culturel que nous n'arrivons pas à surmonter entre les valeurs fondatrices de notre secteur, les logiques d'inclusion et d'intégration et le modèle de société qui nous est proposé. Nous avons la certitude aujourd'hui que s'il faut résolument aller vers une société ouverte, si nous sommes intimement persuadés tous qu'il faut sortir des logiques institutionnelles, s'il nous faut être des acteurs volontaristes de cette démocratie sanitaire à laquelle nous aspirons tous comme simples citoyens, si nous affirmons avec les personnes concernées que cette philosophie des droits individuels portée par la loi doit être l'objectif même de toutes nos interventions, eh ben nous craignons en même temps, en plus de ce qu'a évoqué le président tout à l'heure, que les politiques de désinstitutionnalisation masquent peut-être une volonté de voir disparaître la légitime revendication sur les moyens et les besoins, que les mécanismes d'appel d'offres viennent dénaturer l'expertise et la qualité au nom du seul dénominateur économique. Nous savons bien car nous sommes aussi des citoyens responsables, qu'il faudra absolument trouver un équilibre entre la croissance exponentielle des besoins et les ressources disponibles. Mais nous savons aussi que ce n'est pas notre secteur qui a créé indûment ces besoins-là. Chers amis, mesdames, messieurs les représentants des pouvoirs publics, de la mairie, des collectivités, cette inquiétude, il faut la prendre très au sérieux. Ce n'est pas bêtement la crainte, comme on entend, que le médico-social soit rendu soluble dans la santé. Ce n'est pas simplement que l'on s'accroche par confort à ce que nous savons faire et qu'on a peur du changement. Que nous ne sachions pas suffisamment évoluer dans nos pratiques et innover. Ce n'est pas la peur d'être évalué et contrôlé. Nous sommes conscients que dans une période aussi compliquée que la nôtre, il faudra impérativement trouver un équilibre entre la qualité des soins, la qualité d'accompagnement et de rééducation et les financements nécessaires pour la produire et la contrôler. L'État ne pourra pas tout, c'est une évidence. Nous savons que nous devrons jouer sur les complémentarités, jouer sur la diversification et faire mieux avec moins, mais nous n'avons plus envie qu'un discours redondant sur l'accès aux droits individuels tienne lieu de politique et de stratégie pour promouvoir une meilleure qualité de vie de nos concitoyens handicapés. Je vous remercie.
Merci beaucoup.